C'était pas un peu voyant cette main verte, Alain ?
Non, mais Alain Bartok, qui lui n'est pas du tout fâché, il est très heureux de, d'être à vos côtés, Eric.
J'adore quand il parle.
Très heureux de
personne.
Vous voir, oui, tout à fait.
C'est côté de long.
Mais non, mais à côté Noël, imaginez que nous sommes dans le studio d'Inter ce matin. Je suis assis à côté de Plantu qui est en train d'envahir le studio avec ses dessins. Que voulez-vous ? Je suis un enfant, je suis heureux, je suis content d'être avec vous.
Plantu qui serait l'invité de Patricia Martin dans 6 minutes. Ce matin, on va rappeler Alain Bartok que les arbres sont témoins de l'histoire.
Et c'est pour cette raison que le photographe Richard Melloul vient de publier un livre exclusivement consacré à ces monuments en bois, capables de vivre des centaines d'années, parfois même davantage. Dans l'ouvrage qu'il vient de publier, un ouvrage de 222 pages illustré de photographies magnifiques, l'auteur nous présente 29 arbres exceptionnels qui ont fait partie, qui ont fait la grande ou la petite histoire.
Et ce projet de livre est né dans un lieu de sinistre réputation.
Richard Melloul se rend pour son métier à Auschwitz en Pologne et il constate qu'un arbre contemporain de la barbarie humaine vit toujours à l'entrée du camp. Il décide alors de s'intéresser à tous ces arbres qui conservent enfouis sous l'écorce les pages glorieuses ou dramatiques de notre passé. L'arbre d'Auschwitz, appelé ici le gardien des enfers, côtoie le chêne d'Oradour-sur-Glane ou celui du bois de Boulogne, sur lequel une plaque rappelle aux promeneurs que son tronc porte les traces des balles qui ont tué 35 jeunes résistants. Le plus âgé n'avait pas 24 ans.
Et dans ce livre sur les arbres, il est aussi question des oliviers d'Auguste Renoir.
Ils se souviennent, c'est sûr, du grand peintre qui appréciait leur silhouette. Le livre présente aussi les cèdres de Georges Sand, du chêne qui, dans une forêt anglaise, servait de refuge à Robin des Bois, et celui du roi Arthur, arbre magnifique de la forêt de Brocéliande. Il y a aussi le pommier d'Isaac Newton, vous savez, ce fameux pommier témoin de la chute d'une pomme, paraît-il.
La gravité universelle.
Eh oui, l'arbre sous lequel Marilyn Monroe aimait se reposer, le sophora du Petit Trianon, si cher à Marie-Antoinette et si cher à mon cœur, le robinier du Square Viviani, qui est le plus vieil arbre de Paris. On y voit également le célèbre chêne d'Allouville, le confident de Sainte-Hélène qui vécut auprès de Napoléon, ou encore le rescapé des attentats du 11 septembre à New York et bien d'autres arbres encore.
Et sans oublier l'arbre immortel d'Hiroshima.
Un Jingo biloba qui a résisté à la bombe atomique et qui, à plus de 220 ans, continue chaque année de produire des feuilles. Les dernières pages de ce livre merveilleux sont consacrées, écoutez bien Patricia, vous allez être absolument scotchée, au Jingo éternel, un sapin qui vit dans le nord de la Suède. Il a été découvert en 2004 et sa longévité au carbone 14 indique un âge de 9950 ans. Il est le doyen de l'humanité tout entière. Alors, cet ouvrage, Les arbres témoins de l'histoire, donc, est signé Richard Melloul. Les textes sont sublimes, ciselés, vous n'avez pas idée, de Cyril Drouet. Il est publié aux éditions Michel Lafon. Et là, je vais faire sourire Patricia, mais je vais donner le prix, parce que c'est un ouvrage d'art qui est merveilleux. 34,95 €. Honnêtement, j'ai conscience de la valeur de l'euro, mais là, c'est un cadeau.
Et vous, le jardinier de Versailles, quel est votre arbre favori dans le parc de Versailles?
C'est le doyen des arbres, c'est un chêne qui vit non loin du Grand Trianon. Il a été planté sous Louis XIV, aucun panneau n'indique son emplacement. Cet arbre ne se découvre pas par hasard, il se mérite.
Et c'est pour ça qu'on ne saura pas où il est dans le parc.
Je ne vous le dirai pas aujourd'hui.
Très bien. Alain Bartok, vos réponses aux questions des auditrices et auditeurs de France Inter. Dominique nous dit « Au secours, écrit-elle, des chenilles vertes se régalent avec mes épinards dans le verger, quoi faire ?»
Elles ont bien raison, déjà il faut se souvenir que d'ailleurs une chenille, il y a un papillon. Alors arrêtons de tuer les chenilles si on veut demain avoir des papillons. Ensuite, il y a une chose que je trouve assez extraordinaire. Quand on a la passion, par exemple, de la cueillette ou du ramassage des escargots, on trouve logique avec un petit panier de se promener, de se baisser et de les ramasser. Mais quand il s'agit de détruire, on n'a plus la force de se baisser. Bien, si on a des chenilles sur les épinards, déjà, on en profite pour boulotter les épinards, c'est maintenant qu'il faut les récolter.
S'il y a des chenilles, ça fait
bien.
Eh bien,
on les passe sous l'eau, on les met dans un petit sac, on va les mettre dans le jardin pour que les oiseaux en profitent. Chez le voisin, éventuellement, s'il a également un potager.
Et le hon, de toute façon, c'est votre épouse.
Oui, mais non, moi je ne cuisine pas, je n'ai pas la compétence pour se faire. Par contre, j'ai une fourchette que vous connaissez bien, Patricia, qui est assez...
Un coup de fourchette.
Hors du commun, ouais. Je dois le reconnaître.
Et mais qui donc... se voit à certains endroits de
bon,
votre
on s'égare, oui, on s'égare, oui. Marathon, finissez sur les chenilles.
Donc les chenilles, il n'y a pas grand-chose à faire, simplement, on ne met pas de produits, et s'il y a des chenilles, c'est simplement qu'elles ont elles aussi besoin de nourrir, et je rappelle que derrière une chenille, il y a un papillon, ne comptez pas sur moi en cette période de fête de Noël de vous dire comment détruire une bestiole.
Bon, c'est noté.
J'aime les chenilles.
Donc Dominique repart part avec ses chenilles et pas de conseils précis. Non, si ce n'est qu'il faut les garder dans ses épinards.
Et de rincer les feuilles des épinards avant de les manger.
Eh bien, on rincera. Béatrice a une question pour vous. Est-il bon de mettre du béton dans le creux des vieux arbres? Et pourquoi?
C'est amusant, ça a souvent été fait. Regardez bien dans les parcs historiques. Il y a un vieil arbre, il y avait un creux. Les architectes ont cru bon de mettre du béton.
Quel intérêt?
Aucun intérêt. Les gens sont persuadés qu'en mettant ainsi ce pansement, on va éviter à la maladie de se propager. Imaginez, Eric, à l'instant, je ne plaisante pas, que vous coupiez le doigt. Alors vous mettez un petit pansement, tout simplement, pour éviter, bien entendu, la diffusion de petites bactéries. Mais ce pansement, vous allez le garder à vie. Vous imaginez l'état de votre doigt dans 20, 30 ou 40 ans? Il en est de même pour un arbre. Quand on met du béton, on ne constate pas derrière le béton l'évolution de la maladie. L'humidité, les champignons peuvent se développer et l'arbre devient dangereux. Donc si on a chez soi la chance, le bonheur d'avoir un vieil arbre avec du béton au milieu, et il y a beaucoup d'endroits où on en voit, on commence par supprimer le béton, on permet comme ça à la plaie de s'aérer, on mettra un grillage pour éviter que les oiseaux ou mammifères viennent nicher dans le creux, parce que malheureusement les oiseaux ont tendance parfois, et les petits mammifères, à ne pas connaître les sanitaires, et ça crée une situation qui encourage la diffusion d'autres maladies. Mais on retire le béton des vieux arbres.
Rapidement, question de Jules, est-ce le bon moment pour tailler un buis?
Non, je n'aime pas l'idée de tailler les buis en hiver. Quand on taille à quelques jours avant la gelée, ne vous étonnez pas si ensuite les feuilles deviennent blanches sur le dessus.
Allez, on termine avec un dernier conseil. Lecture, ou balade?
Eh ben non, lecture, je reviens sur mon livre. Les arbres sont témoins de l'histoire, publié aux éditions Michel Lafond. Ouvrage coup de cœur.
Et vous parliez tout à l'heure de la pomme. Vous avez un souvenir précis d'un dessin de plantu avec une pomme.
Oh, c'est une vieille fermière. Nous sommes dans la Russie de Mikhail Gorbatchev. Gorbatchev interpelle cette paysanne. Elle tient un mulet par la main droite et une charrette. Dans la charrette, une pomme. Gorbatchev lui dit une pomme. Elle répond non, une récolte. Et c'est signé
Plantu. Et c'est signé Plantu. Évidemment, Plantu qui est notre invité jusqu'à 8h.